Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Comme d'habitude, nous allons présenter d'abord le journal suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et ensuite, nous allons présenter le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des musiques indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie. Les informations.
Serviteurs, bonsoir. Voici le journal de la voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Nous commençons avec les titres. Le gouvernement intensifie les programmes pour attirer les touristes étrangers à travers la zone frontalière. Le gouvernement indonésien devrait permettre d'optimiser le tourisme culinaire en attirant l'attention des touristes étrangers. L'Indonésie espère que la conférence de paix de Paris devienne le nouveau processus de négociation entre la Palestine et l'Israël. L'Indonésie invite les pays de l'Asie à prioriser les infrastructures. L'Indonésie n'implique pas au conflit en mer de Chine méridionale. Et enfin, les Philippines sont l'un des trois plus grands contributeurs d'exportation. Voici le journal complet. Le secrétaire adjoint du développement de marketing de tourisme à l'étranger du ministère indonésien du tourisme, Niwayan Giri Adnyani à la voix d'Indonésie de RRI, après le forum diplomatique organisé par la Voix de l'Indonésie à Jakarta mercredi, a affirmé que les zones frontalières indonésiennes avec d'autres pays devenaient l'attention sérieuse du gouvernement pour attirer les touristes étrangers en activant le programme spécial. Selon elle, en fait, le programme fait par le gouvernement ne visant pas seulement à attirer les touristes étrangers, mais aussi à préserver la tradition locale et la culture des zones frontalières.
Kita bahkan punya program cross border program kok. Kita bikin.
Le ministère indonésien de tourisme a le programme transfrontalier. Il fait le programme dans les zones frontalières comme à l'ouest et l'est de Kalimantan. Même nous faisons également le programme en frontière d'Atambua et aussi à Batam. Le ministère indonésien du tourisme active également le programme là-bas. D'une part, ce programme est pour l'État unitaire de la République d'Indonésie, mais aussi pour la fierté des habitants de la frontière. Alors, le ministère indonésien du tourisme ne se concentre que sur le nombre de touristes étrangers qui viennent en Indonésie. En outre, Niwayan Giri Adnyani a également dit, le ministère du tourisme continuerait également à encourager les autres parties prenantes pour promouvoir la zone touristique d'Indonésie en vendant des produits ou des souvenirs typiques de l'Indonésie avec la qualité internationale. De sorte que des articles ou des souvenirs typiques d'Indonésie sont de plus en plus reconnus à l'étranger. Un observateur de l'économie et du tourisme de l'Université de Pajajaran, Poppy Rufaidah, après la cérémonie du forum diplomatique organisé par la Voix d'Indonésie à Jakarta, a affirmé aux médias mercredi que le gouvernement indonésien devrait immédiatement optimiser le tourisme culinaire traditionnel pour attirer plus de touristes étrangers à visiter l'Indonésie. Elle a dit que le gouvernement devrait accroître la coopération avec les composants de tourisme, tels que les gestionnaires ou les associations de l'industrie du tourisme qui pourraient promouvoir le tourisme culinaire indonésien à l'étranger.
Berdasarkan World Travel and Tourism Index tahun 2015, Indonesia itu rankingnya adalah 50.
Basé sur l'index du tourisme et du voyage mondial 2015, l'Indonésie a placé le 50e rang à partir de 114 indicateurs. Mais pour le prix culinaire, l'Indonésie était au 3e rang. L'Indonésie doit optimiser que l'Indonésie peut vaincre les autres pays à la fois de la compétitivité des prix et le tourisme patrimonial. Puis, naturellement, l'Indonésie est plus excellente que les autres pays. Et maintenant, comment le tourisme culinaire est optimisé plus par le ministère indonésien du tourisme en invitant d'autres industries des composants de tourisme? Selon Poppy Rufaida, la plupart des touristes européens se sont intéressés au tourisme culinaire en Indonésie afin que le gouvernement indonésien doive encourager la gestion des hôtels, des cafés et des restaurants pour servir une cuisine traditionnelle indonésienne avec des informations complètes telles que combien pour cent est sa teneur en éléments nutritifs, quel est le contenu de cette nourriture, quel est le nom de la nourriture, où est la nourriture et d'autres informations. Selon elle, ce concept va augmenter le nombre de touristes étrangers à visiter l'Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, participera à la conférence de la paix à Paris pour discuter des efforts continus pour la paix en Palestine et en Israël. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré: cette conférence était une première réunion de deux pays qui exprimait activement les efforts de paix dans le conflit entre la Palestine et l'Israël. L'Indonésie, comme un pays qui accorde une attention spéciale de réaliser l'indépendance de la Palestine, espère que la conférence de paix devienne un nouveau processus de négociation visant à encourager la solution du long conflit entre la Palestine et l'Israël. Arman Atanasir a révélé que l'Indonésie partagerait l'expérience de l'Indonésie dans la réduction des conflits comme les conflits au Cambodge et les conflits du Front de la Libération du Moro. Cette conférence sera assistée par diverses organisations du monde, à savoir l'Organisation des Nations Unies, la Ligue arabe et l'Union européenne, à soutenir le nouveau processus de négociation et certains nombres de pays, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Canada, la Pologne, l'Arabie saoudite, l'Espagne, la Turquie, la Jordanie, le Maroc et l'Indonésie. L'Indonésie invite les pays de l'ASEAN à prioriser le développement des infrastructures afin que entre les nations puissent être connectées pour créer l'égalité économique. Il a été déclaré le vice-président Yusuf Kalla au Forum économique mondial sur l'ASEAN en 2016 à Kuala Lumpur en Malaisie le mercredi. Il était très sûr de la connectivité pour créer l'égalité des pays membres de l'ASEAN. Lors d'une réunion en présence du premier ministre malaisien Mohamed Najib bin Tun Abdul Razak comme l'hôte, le premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le premier ministre du Timor Oriental Rui Marie Arej et le vice-premier ministre du Vietnam Trinh Dinh Duong. Selon Yusuf Kalla, la stabilité politique et la sécurité dans l'ASEAN est le principal capital pour attirer les investisseurs. Le vice-président a également souligné l'importance de la concurrence pour améliorer l'égalité. L'ASEAN doit être en mesure d'améliorer le bien-être dans la région à travers la coopération entre les membres de l'ASEAN et d'autres pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a demandé à toutes les parties, notamment les médias, pour séparer entre la question de la pêche illégale dans les eaux de Natuna avec celle de la revendication en mer de Chine du Sud, parce que l'Indonésie n'est pas impliquée à la revendication frontalière avec d'autres pays. Seskadi pak akmanata a Jakarta merkadi. Comme rapporté par Antara le 27 mai 2016, le navire de la République d'Indonésie KRI TNI Oswald Sihaan 354 a capturé un navire de la Chine Guibeyu 27088 qui est soupçonné de suspecter de pêche illégale à Natuna sur les îles de Riau. Concernant l'arrestation, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déposé une protestation qui a été faite par ce navire en conformité avec les règlements parce que ce navire existe dans leur zone de pêche traditionnelle. Il a affirmé à nouveau « L'arrestation est une tentative de faire respecter la souveraineté et les lois de l'Indonésie. » Associé à Natuna, Akhmanata a également souligné que l'Indonésie ne dispose que des questions frontalières avec la Malaisie et le Vietnam dans la décision du problème territorial et la zone économique exclusive. Les Philippines sont l'un des plus grands contributeurs à exporter environ 2,3 milliards de dollars l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie aux Philippines, Johnny Jelumintang, à Jakarta. Selon Johnny Jelumintang, les Philippines ont importé beaucoup de charbon en provenance d'Indonésie pour la centrale électrique dans ce pays. L'Indonésie et les Philippines ont la coopération dans divers domaines tels que économique, politique, sécuritaire et socio-culturel mutuellement. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Sixième longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, Retour à Pancasila. Hier, le président Joko Widodo a annoncé la fixation du 1er juin comme l'anniversaire de Pancasila et le jour férié national. Pendant ce temps, la détermination de date et l'importance ou pas d'importance, la célébration d'anniversaire de la base de la République d'Indonésie n'a pas encore atteint un accord. Il y a les différents points de vue à ce sujet, en particulier s'il est lié aux figures fondatrices de la nation qui jouent un rôle dans la déclaration de cinq principes qui avaient si sacré à l'époque du Nouvel Ordre. Le 1er juin 1945 est la dernière conférence du comité pour l'investigation sur les efforts de préparation de l'indépendance de l'Indonésie, BPUPKI, pour formuler la base de l'État indonésien. À ce jour, Insinyur Soekarno, qui devint plus tard président de la République d'Indonésie, a prononcé un discours intitulé « La naissance de Pancasila ». Un certain nombre de partis ont affirmé qu'à travers les paroles de Soekarno, Pancasila était formulée. Mais dans son développement, le 1er juin semble être négligé par les activités du Parti communiste indonésien, marquées par une décision pour faire 1er octobre comme Hari Kesaktian Pancasila ou le jour de sainteté de Pancasila. Pancasila est considéré comme nectar des valeurs nobles et la sagesse locale. Par conséquent, la pratique de tous ces cinq principes n'est pas difficile dans la nation et l'État. L'expérience prouve que Pancasila est capable de resserrer la population indonésienne avec de nombreux milieux différents. Mais le fil du temps révèle aussi que la tentation des idéologies emportées a commencé à devenir plus forte, comme si Pancasila est plus adapté à la situation actuelle. En regardant cela, il est naturel et nécessaire si le gouvernement fixe le 1er juin comme le jour de la naissance de Pancasila, afin de devenir un élan pour amener la nation indonésienne de retour sur Pancasila. La pertinence de Pancasila liée aux problèmes mondiaux d'aujourd'hui, comme la démocratie et l'application des droits de l'homme, n'a plus besoin d'être remis en question. Le deuxième principe, l'humanité juste et civilisée, montre clairement le respect des autres. De même, le quatrième principe, démocratie dirigée par la sagesse dans les délibérations des représentants, montre que la démocratie indonésie est basée sur la valeur de la délibération. Par conséquent, cette fois, cela dépend de la façon du peuple indonésien d'apprendre de longs dossiers historiques sur les efforts visant à mettre en œuvre Pancasila. Autrefois, Pancasila était négligé suite à la forte lutte des partis politiques du pays et de la présence de la démocratie guidée. Ensuite, il y a une époque où Pancasila était implanté dans l'endoctrinement qui frame l'émergence de points de vue et de questions critiques. À l'époque de la réforme, la modélisation devient un facteur important dans l'extension de l'appréciation et l'opérationnalisation de Pancasila dans la vie quotidienne. S'il est succès, il ne concerne pas seulement l'accélération du développement propre de l'Indonésie, mais aussi un impact sur le rôle croissant de l'Indonésie dans la création du meilleur monde. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec l'événement de juin 1967, les protestations à Berlin-Ouest contre l'arrivée du Shah d'Iran. Les protestations à Berlin-Ouest contre l'arrivée du Shah d'Iran à Sanjé à Ain Omut. Dans cette agitation, Benno Ohnesorg, un étudiant allemand tué d'une balle de pistolet. Dans la tête lors d'une manifestation contre le Shah Mohammad Reza Pahlavi à Berlin-Ouest. Sa mort est devenue le précurseur de l'émergence de groupes radicaux d'étudiants et de la RAF. Un monument pour commémorer la mort d'Ohnesorg a été créé à Berlin et dans sa ville natale de Hanovre. Un pont qui traverse la rivière Dihme est nommé son nom comme en hommage à Benno Ohnesorg. L'autre information est sur la mort de Bruce McLaren de juin 1970. Bruce Leslie McLaren est un pilote automobile néo-zélandais, designer d'automobiles de course, gestionnaire et propriétaire de l'écurie McLaren de Nouvelle-Zélande. Son nom est maintenant immortalisé à une équipe de Formule 1 qu'il a fait sa propre dans les années 60. Jusqu'à présent, l'écurie McLaren est l'une des équipes la plus réussie en Formule 1 sous Ferrari et au-dessous Williams F1 avec 11 titres de coureur et 8 titres de constructeur. En essayant l'un de ses prototypes Can-Am, Bruce McLaren se tue sur le circuit de Goodwood le 2 juin 1970. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la mort de Slamet Mulyana de juin 1986. Slamet Mulyana est un philologue et historien de l'Indonésie. Il a enseigné à l'Université de Gajah Mada, l'Académie de l'information et l'Académie de journalisme. D'ailleurs, il a également enseigné à l'étranger, entre autres Wolfgang Goethe Universität à Frankfurt en Allemagne, l'Université d'État de New York, Albany, aux États-Unis, et l'Université de Nanyang de Singapour, à Singapour. En outre, Slamet Mulyana a servi comme directeur de l'Institut pour la langue et la culture à Singapour, ainsi qu'un membre du conseil de curateurs à l'Institut of Southeast Asian Studies à Singapour. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée Seulement 1% des produits des petites et moyennes entreprises de Jember qui est déjà go international. à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, ou CEA, en 2016, encourage les petites et moyennes entreprises, ou PME, dans la région pour concurrencer sur le marché mondial. Mais ne pas toutes les régions peuvent entrer sur le marché libre facilement. Le président de l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs, ou HIPMI, à Jember, Renda Wirawan, a déclaré récemment que les PME qui rejoignent à HIPMI Jember n'atteignent qu'environ 400 unités, mais la plupart pour la destination du marché local. Seulement 1% des produits de PME qui peuvent entrer sur le marché mondial. Selon Renda, 1% des produits qui ont été exportés, entre autres le produit transformé du café, du cacao, tabac, artisanat et le batik de Jember. Le produit principal de Jember est encore l'agro-industrie parce que Jember est une zone de plantation. Par conséquent, le produit d'artisanat de batik qui est plus préféré le marché étranger est également avec le motif de plantation. Selon Indri Wulandari, l'une des entrepreneurs qui est déjà go international, pour entrer dans la compétition sur le marché mondial est assez difficile parce que les entrepreneurs doivent avoir un esprit d'entreprise élevé et peuvent maintenir la qualité de produits, y compris d'avoir la licence d'exportation de produits. Selon lui, il est devenu un point important pour améliorer la compétitivité de l'ère de libre-échange de l'ASEAN. Le représentant du ministère de l'Industrie, Musnidar, a déclaré que l'exportation de produits est l'un des instruments pour développer des marchés à l'échelle nationale et internationale. En outre, il doit avoir une synergie entre le gouvernement et l'organisation comme HIPMI. Le thème de la réunion de la Blance en 2016 est « L'éveil des jeunes entrepreneurs pour renforcer l'économie locale ». On espère que ce thème peut développer la capacité et le rôle des jeunes entrepreneurs de participer au renforcement de l'économie locale. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le secrétaire adjoint du développement de marketing de tourisme à l'étranger du ministère indonésien du tourisme, Niwayan Giri Adnyani à la Voix d'Indonésie de RRI, après le forum diplomatique organisé par la Voix d'Indonésie à Jakarta mercredi, a affirmé que les zones frontalières indonésiennes avec d'autres pays devenaient l'attention sérieuse du gouvernement pour attirer les touristes étrangers en activant le programme spécial. Selon elle, en fait, le programme fait par le gouvernement ne visant pas seulement à attirer les touristes étrangers, mais aussi à préserver la tradition locale et la culture des zones frontalières.
Kita bahkan punya program cross border program kok. Kita bikin.
Le ministère indonésien du tourisme a le programme transfrontalier. Il fait le programme dans les zones frontalières comme à l'ouest et l'est de Kalimantan. Même nous faisons également le programme en frontière d'Atambua et aussi à Batam. Le ministère indonésien du tourisme active également le programme là-bas. D'une part, ce programme est pour l'État unitaire de la République d'Indonésie, mais aussi pour la fierté des habitants de la frontière. Alors, le ministère indonésien du tourisme ne se concentre que sur le nombre de touristes étrangers qui viennent en Indonésie. En outre, Niwayan Giri Adnyani a également dit, le ministère du tourisme continuerait également à encourager les autres parties prenantes pour promouvoir la zone touristique de l'Indonésie en vendant des produits ou des souvenirs typiques de l'Indonésie avec la qualité internationale. De sorte que des articles ou des souvenirs typiques de l'Indonésie sont de plus en plus reconnus à l'étranger. Un observateur de l'économie et du tourisme de l'Université de Pajajaran, Poppy Rufaida, après la cérémonie du forum diplomatique organisé par la Voix d'Indonésie à Jakarta, a affirmé aux médias mercredi que le gouvernement indonésien devrait immédiatement optimiser le tourisme culinaires traditionnels pour attirer plus de touristes étrangers à visiter l'Indonésie. Elle a dit que le gouvernement devrait accroître la coopération avec les composants de tourisme, tels que les gestionnaires ou les associations de l'industrie du tourisme qui pourraient promouvoir le tourisme culinaire indonésien à l'étranger.
Berdasarkan World Travel and Tourism Index tahun 2015, Indonesia itu rankingnya adalah 50.
Basé sur l'index du tourisme et du voyage mondial 2015, l'Indonésie a placé le 50e rang à partir de 114 indicateurs. Mais pour le prix culinaire, l'Indonésie était au 3e rang. L'Indonésie doit optimiser que l'Indonésie peut vaincre les autres pays à la fois de la compétitivité des prix et le tourisme patrimonial. Puis, naturellement, l'Indonésie est plus excellente que les autres pays. Et maintenant, comment le tourisme culinaire est optimisé plus par le ministère indonésien du tourisme en invitant d'autres industries des composants de tourisme? Selon Poppy Rufaida, la plupart des touristes européens se sont intéressés au tourisme culinaire indonésien afin que le gouvernement indonésien doive encourager la gestion des hôtels, des cafés et des restaurants pour servir une cuisine traditionnelle indonésienne avec des informations complètes telles que combien pour cent est sa teneur en éléments nutritifs, quel est le contenu de cette nourriture, quel est le nom de la nourriture, où est la nourriture et d'autres informations. Selon elle, ce concept va augmenter le nombre de touristes étrangers à visiter l'Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, participera à la conférence de la paix à Paris pour discuter des efforts continus pour la paix en Palestine et en Israël. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré: cette conférence était une première réunion de deux pays qui exprimait activement les efforts de paix dans le conflit entre la Palestine et l'Israël. L'Indonésie, comme un pays qui accorde une attention spéciale de réaliser l'indépendance de la Palestine, espère que la conférence de paix devienne un nouveau processus de négociation visant à encourager la solution du long conflit entre la Palestine et l'Israël. Arman Atanasir a révélé que l'Indonésie partagerait l'expérience de l'Indonésie dans la réduction des conflits comme les conflits au Cambodge et les conflits du Front de la Libération de Moro. Cette conférence sera assistée par diverses organisations du monde, à savoir l'Organisation des Nations Unies, la Ligue arabe et l'Union européenne, à soutenir le nouveau processus de négociation et certains nombres de pays, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Canada, la Pologne, l'Arabie saoudite, l'Espagne, la Turquie, la Jordanie, le Maroc et l'Indonésie. L'Indonésie invite les pays de l'Asie à prioriser le développement des infrastructures afin que entre les nations puissent être connectées pour créer l'égalité économique. Il a été déclaré le vice-président Yusuf Kalla au Forum économique mondial sur l'Asie en 2016 à Kuala Lumpur en Malaisie le mercredi. Il était très sûr de la connectivité pour créer l'égalité des pays membres de l'Asie. Lors d'une réunion en présence du premier ministre malaisien Mohamed Najib bin Tun Abdul Razak comme l'hôte, le premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le premier ministre du Timor Oriental Rui Marie Arej et le vice-premier ministre du Vietnam Trinh Dinh Duong. Selon Yusuf Kalla, la stabilité politique et la sécurité dans l'Asie est le principal capital pour attirer les investisseurs. Le vice-président a également souligné l'importance de la concurrence pour améliorer l'égalité. L'Asie doit être en mesure d'améliorer le bien-être dans la région à travers la coopération entre les membres de l'Asie et d'autres pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a demandé à toutes les parties, notamment les médias, pour séparer entre la question de la pêche illégale dans les eaux de Natuna avec celle de la revendication en mer de Chine du Sud parce que l'Indonésie n'est pas impliquée à la revendication frontalière avec d'autres pays. C'est ce qu'a dit par Armanata à Jakarta mercredi. Comme rapporté par Antara le 27 mai 2016, le navire de la République d'Indonésie KRI TNI Oswald Sihaan 354 a capturé un navire de la Chine Guibeyu 27088 qui est soupçonné de suspecter de pêche illégale à Natuna sur les îles de Riau. Concernant l'arrestation, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déposé une protestation qui était faite par ce navire en conformité avec les règlements parce que ce navire existe dans leur zone de pêche traditionnelle. Il a affirmé à nouveau « L'arrestation est une tentative de faire respecter la souveraineté et les lois de l'Indonésie. » Associé à Natuna, Armanata a également souligné que l'Indonésie ne dispose que des questions frontalières avec la Malaisie et le Vietnam dans la décision de problèmes territoriaux et la zone économique exclusive. Les Philippines sont l'un des plus grands contributeurs à exporter environ 2,3 milliards de dollars l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie aux Philippines, Johnny Jelumintang, à Jakarta. Selon Johnny Jelumintang, les Philippines ont importé beaucoup de charbon en provenance d'Indonésie pour la centrale électrique dans ce pays. L'Indonésie et les Philippines ont la coopération dans divers domaines tels que économique, politique, sécuritaire et socio-culturel mutuellement. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La place de Gucci Batu Kapal. Il est dit qu'en région Lampung vivait un jeune homme nommé Serunting de la péninsule arabique qui a voyagé à l'île de Sumatra. Il est également connu par le nom Si Pahit Lida, soit la langue amère. Il avait de la magie sous la forme d'une malédiction. Quoi qu'il a maudit, serait transformé en pierre. On a dit anciennement Si Pahit Lida n'aimait pas des gens dans la porte à Lampung. Les gens dans le port étaient trop occupés et l'ignoraient souvent quand ils essayaient de les dire bonjour. À cause de cela, il était en colère. Les gens là-bas alors étaient maudits à la pierre. Jusqu'à maintenant, les roses en forme de navire sont encore visibles dans l'intérêt touristique de la plage de Gucci Batu Kapal. Il se trouve sur la côte droite de la plage. Une telle légende devenait la base de l'appellation de l'un des intérêts touristiques à Lampung. En plus de la légende, il y a d'autres légendes étant la base de l'appellation de la place de Gucci Batu Kapal. Le nom Gucci, soit la jarre, est pris d'une ancienne histoire où on a trouvé une grande jarre réplique de marchands étrangers sur le site. Cet jarre pouvait rendre quelqu'un disparaît lorsqu'il s'en sert dans la jarre. La légende, la malédiction de la langue amère ajoute l'attraction de la plage de Gucci Batu Kapal. Cette plage est située dans le village de Maja Kalianda, en régence de Lampung Dusut, en province de Lampung. La distance est 5 km du centre-ville Kalianda, la capitale de la régence de Lampung Dusut. De Bandar Lampung, capitale de la province Lampung, la ville de Kalianda peut être atteinte pendant environ 1h30. La plage de Gucci Batu Kapal a un bord de la plage, le sable mou et les rochers qui semblaient pressés des deux côtés. Les vagues étaient calmes avec des arbres luxuriants qui ornent la côte. Vous pouvez vous baigner sur cette plage. De plus, ici, il y a une piscine naturelle située entre les rochers avec de l'eau claire. Les roches semblent un créneau qui emprisonne l'eau de mer et forme un bassin d'eau claire avec une base remplie de corail. Lorsque l'eau a récolté, les roches deviennent l'aquarium naturel contenant de petits poissons piégés en elles. On peut faire de nombreuses activités à la côte Gucci Batu Kapal, entre autres ramer le bateau. Cette activité devient celle passionnante et romantique qui peuvent être faites dans cette plage, surtout si vous le faites au coucher du soleil. Le bateau de coucher de soleil dans cette plage est également la raison pour laquelle de nombreux touristes viennent à cette plage. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le magazine culturel intitulé Place Gucci Batu Kapal. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Ironésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Ironésie en couleur, intitulé Festival de Janger 2016. Du 3 jusqu'au 4 juin demain, un festival intitulé Festival Janger 2016 aura lieu. Le Festival Jayagiri ou le Festival Janger aura lieu à l'Esplanade Jayagiri, le district de Panumbangan, la région de Ciamis, Jawa West. Le festival est organisé pour accueillir un large éventail de potentiels des arts culturels de la région de Ciamis, surtout dans la région du Nord. Le festival Janger donne la motivation pour les auteurs de l'art et de la culture à développer la créativité qualifiée pour améliorer le bien-être de la communauté et l'un des événements qui ouvre la possibilité de promotion culturelle et de promotion du tourisme pour le commerce et le service de la pêche dans la zone Ciamis du Nord. Le Festival Janger 2016 présente l'un des arts traditionnels et modernes pour accueillir le tourisme religieux au mois sacré du Ramadan. Le spectacle affiché sont Helaran, l'art populaire et de la culture religieuse de la société Jayagiri, Sirna Rasa Panjalu et la performance Marawis, les arts martiaux, Jaipongan, spectacle de marionnettes Ajen, et des grands récitals de Coran, Tawassul, Zikir et les autres. Les participants de ce spectacle sont les artistes, les étudiants et les gens du quartier Jayagiri, Panumbangan et Panjalu Ciamis, ainsi que l'extérieur de Ciamis qui peut attirer l'intérêt des touristes. De toutes les performances qui sont là, l'un des principaux attraits de ce festival est la marionnette Ajen. Le nom de marionnette Ajen peut encore rarement être entendu. Ce type de marionnette est né de la prise de conscience de la jeune génération dans les spectacles de marionnettes traditionnelles sundanaises de l'origine avec l'exploration créative. La marionnette Ajen est semblable à la marionnette Golek, mais le spectacle utilise une collaboration avec une variété de médias des arts qui se complètent mutuellement. Ciamis est l'un des districts de l'ouest de Java. La distance de Jakarta à Ciamis est 278 km. Avant d'atteindre cette ville, vous pouvez passer jusqu'à 6 heures pour la route, mais le long du voyage sera payé avec une variété incroyable de destinations touristiques naturelles. Donc, deux d'entre eux sont Green Canyon et la rivière Titumang, qui ont été visités par beaucoup de touristes. En outre, il y a beaucoup d'autres belles destinations vierges, comme la cascade Sept Tibolang à Panjalu, qui est une destination unique avec sept cascades à la fois. En outre, il y a Ichakan, à savoir les attractions aquatiques avec une belle vue. Les amateurs de la culture peuvent également arrêter dans Situ Lengkong Panjalu, qui a un certain nombre de restes de sites historiques du royaume Panjalu dans le passé. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme L'Indonésie en couleur, intitulé Festival de Jangir 2016. Merci de votre fidélité et à bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ac.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur, Ramona Purba. Voici sa première chanson intitulée Terlena. Bonne écoute.
Tidur pun gelisah tanpa. gairah senyumku musnah, ceritaku hampa.
Serditor, saya telah sangsung de Ramona Purba ang titulé terlena. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. La condition physique imparfaite ne devient pas une raison ou un obstacle pour Ramona. Même devient l'encouragement de l'esprit pour atteindre son objectif de devenir un chanteur célèbre. Il est prouvé, Ramona est surnommée Stevie Wonder de l'Indonésie. En effet, avec l'état de la voix imparfaite, Ramona Purba, provenant de Medan, Sumatra du Nord, peut prouver qu'il est capable d'aligner avec d'autres chanteurs de pop dans le pays, à travers ses meilleures œuvres qui peuvent soulever sa popularité en tant que chanteur. À partir du chanteur de la bande comme première étape de sa participation au monde de chant, Ramona a montré la beauté de sa voix. Ensuite, il essaie de chanter en solo et le premier album de Ramona était succès. Bon, Serditok, ektong donc maintenant la chanson de Ramona intitulée Jalan Sore-Sore. Bonne écoute. Sixième longtemps, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur pop de l'Indonésie, Ramona Purba. Le talent de Ramona était déjà visible de la petite. Dans le domaine de la musique, outre sa bonne voix, il peut jouer de la musique et des instruments de musique comme la guitare et le piano. Grâce à sa fermeté et conviction, Ramona Purba est un succès. Son succès est aussi une motivation pour les aveugles pour travailler. Ramona a aussi fréquemment collaboré avec d'autres musiciens bien connus dans le pays et même chaque album a été soutenu par ces musiciens à perfectionner. Avec le nombre de nouveaux arrivants dans le monde de la musique pop d'Indonésie, Ramona n'est pas bien connue. Mais ses chansons étaient toujours dans le cœur des amateurs de chansons pop dans le pays. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée Nalriku. Bonne écoute et au revoir. We'll be right back.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.